Vous écoutez, on lit pour vous.
Trois fois plus de décès de sans-abri au Québec, un dossier d'Isabelle Ducas et Pierre-André Normandin paru le 17 octobre 2024 dans la presse. Les décès de sans-abri répertoriés par le Bureau du coroner du Québec ont triplé ces dernières années. Des données bien en deçà de la réalité, puisque le coroner n'enquête que sur les décès suspects, non naturels ou inexpliqués. En pleine crise de l'itinérance, la drogue, le manque d'accès aux soins et les suicides risquent de tuer de plus en plus de gens, dénoncent des travailleurs communautaires. Il est mort tout seul dans le froid. Nelson Ouellet a été retrouvé mort sur un trottoir d'Hochelaga-Maisonneuve mardi matin, devant un supermarché, à l'endroit où il passait ses jours et ses nuits depuis quelques années. Il était couché sur le trottoir. Les gens ont sans doute pensé qu'il dormait, témoigne avec émotion Lucie Brunette, une résidente du quartier qui le connaissait et tentait de l'aider depuis plusieurs années. Mais il est mort tout seul dans le froid, poursuit-elle. Selon Lucie Brunette, l'homme de 62 ans avait déjà vécu dans une tente le long de la rue Notre-Dame. Mais depuis le démantèlement par les autorités du campement, qui avait pris de l'ampleur en 2021, il dormait dehors. L'itinérant avait d'ailleurs perdu des orteils à cause des engelures. Il avait aussi développé des problèmes pulmonaires, exacerbé par ses conditions de vie difficiles. C'est ce qui arrive quand on laisse les gens dans la rue. Nelson disait qu'il ne voulait pas d'aide. Mais à un certain moment, il faut quand même offrir des services à ces gens, s'insurge Madame Brunette, qui veut organiser une collecte de fonds pour payer les funérailles de celui qui était bien connu dans le quartier. Le nom de Nelson Ouellet s'ajoute à une liste de plus en plus longue de sans-abri morts dans des circonstances tragiques. Morts gelés. Trois ans après que le corps gelé de Raphaël André a été retrouvé dans une toilette chimique du plateau Mont-Royal, alertant l'opinion publique par rapport au manque de ressources en itinérance, le nombre de sans-abri qui meurent a explosé et la plupart disparaissent dans la plus grande indifférence. Le bureau du coroner a recensé pas moins de 72 décès de sans-abri au Québec en 2023, comparativement à seulement une vingtaine par année de 2019 à 2021. Au cours des cinq dernières années, il y en a eu 180 au total, en incluant les données partielles de 2024, pour lesquelles la presse a obtenu les rapports. Partout au Québec, au cours des deux dernières années, la moitié des itinérants, dont la mort a fait l'objet d'un rapport du coroner, ont perdu la vie à Montréal. Signe que le phénomène de l'itinérance s'est répandu dans la province, pas moins de 30 autres villes du Québec ont enregistré au moins un décès d'une personne sans domicile fixe depuis 2022, comme Gatineau, 10, Sherbrooke, 5, ou de petites municipalités comme Saint-Germain-de-Grantham, Brownsburg-Chatham, Val-des-Monts ou Saint-Donat. Ce portrait est toutefois incomplet, puisque la mort d'un itinérant ne donne pas systématiquement lieu à un rapport du coroner. Et les rapports ne mentionnent pas toujours le fait que la personne n'avait pas de domicile fixe, confirme un porte-parole du bureau du coroner. La mort de Raphaël André, itinérant Innu, a pourtant provoqué, en juin 2024, une enquête publique du coroner pour examiner les circonstances de son décès, notamment sa situation de sans-abri et le manque de ressources pour les personnes vivant dans la rue. La pointe de l'iceberg. L'organisme Résilience, qui gère un centre de jour très fréquenté par des itinérants autochtones et inuits, a tenu, à l'été 2024, une cérémonie à la mémoire de 35 de ses clients qui sont morts depuis 2021. Les photos des défunts ornent trois murs du local de l'organisme, rue Sainte-Catherine-Ouest. Or, un seul de ces décès a fait l'objet d'un rapport du coroner, selon ce que la presse a constaté, ce qui confirme une chose, la mort de nombreux itinérants passe sous le radar. Et aucune autre entité gouvernementale ne répertorie le nombre de morts parmi les sans-abri, ce qui constitue une grave lacune, selon des intervenants du milieu communautaire, qui constatent la plus grande vulnérabilité de leur clientèle et déplorent que la société ferme les yeux sur la crise actuelle. D'autres provinces suivent les décès d'itinérants, mais pas le Québec, signale David Chapman, directeur général de Résilience. Parce que si le gouvernement avait l'information, il serait responsable d'agir à ce sujet, ajoute-t-il ironiquement. Pourquoi y a-t-il plus de morts dans la population itinérante? À cause des surdoses de drogue, de problèmes de santé non soignés, du désespoir qui pousse au suicide et de la crise du logement qui met à la rue de plus en plus de gens, répondent les travailleurs communautaires. Vous écoutez, trois fois plus de décès de sans-abri au Québec, un dossier d'Isabelle Ducas et Pierre-André Normandin, paru le 17 octobre 2024 dans la presse. Solitude. Une analyse détaillée des décès de la dernière année permet de constater que la majorité d'entre eux sont survenus à l'extérieur, sur un banc de parc, sur un trottoir, dans une ruelle ou un terrain vague. Deux ont été trouvés dans la tente où ils logeaient. 11 itinérants sont aussi morts chez une connaissance où ils étaient hébergés temporairement. 9 ont subi un malaise ou ont mis fin à leur jour quand ils étaient dans un centre d'hébergement ou une maison de chambre. 8 se sont effondrés dans des commerces au moment où ils étaient attablés à un restaurant ou aux toilettes. Preuve de l'immense solitude dans laquelle vivent plusieurs itinérants, la date de décès est présumée dans le quart des cas, l'enquête du coroner n'ayant pu la déterminer avec précision. Les corps ont souvent été découverts plusieurs jours, voire plusieurs semaines après leur décès. Surtout des hommes. La vaste majorité des itinérants morts depuis 5 ans étaient des hommes. Le bureau du coroner répertorie 158 hommes contre 22 femmes. Ces itinérants avaient en moyenne 47 ans, révèlent les données du bureau du coroner. C'est nettement en deçà de l'espérance de vie moyenne au Québec, qui s'élève à 82 ans. Le plus jeune itinérant ayant perdu la vie en 2023 avait seulement 18 ans. Cette hausse des décès pourrait expliquer une partie de l'augmentation de la mortalité observée chez les moins de 50 ans au Québec. David Chapman déplore que ces décès ne semblent préoccuper personne. « Que vaut la vie de ces gens ?» demande-t-il. « Est-ce qu'ils sont perçus comme ayant moins de valeur pour la société ? Le fait d'être simplement des humains, ce n'est pas assez ?» Des cas de misère humaine. Les rapports du coroner sur la mort de personnes itinérantes se lisent comme un condensé de misère humaine. Mortes dans les toilettes, dans leur voiture, sur le trottoir, sur un banc de parc, dans une tente, heurtées par une rame de métro. Voici quelques exemples des circonstances dans lesquelles des sans-abri ont perdu la vie. À la demande de certaines familles, éprouvées par les circonstances de la mort de leurs proches, nous avons choisi de ne conserver que les prénoms. Ricardo R., 54 ans. Vers minuit, le 30 janvier 2023, Ricardo R. cogne à la porte d'une maison montréalaise alors qu'il semble intoxiqué. Les habitants de l'endroit appellent le 911 puisqu'ils refusent de quitter leur balcon. À l'arrivée des policiers, l'homme est assis dans la neige à l'arrière de l'immeuble et n'est pas chaudement vêtu. note le rapport de la coroner Julie Kim Godin. Comme il refuse de monter dans leur voiture, les policiers tentent de le réchauffer avec une couverture. Mais l'homme tombe rapidement en arrêt cardio-respiratoire. Sa mort est attribuée à une polyintoxication à l'alcool et aux médicaments. Pas moins de 6 substances ont été détectées dans son sang. Fedra P., 41 ans, Fedra P. dormait sur un banc de parc du centre-ville de Montréal avec un ami, vers 11h, le 19 octobre 2023. Lorsque son ami a ouvert les yeux, il a constaté que Fedra P. ne se réveillait pas. Il est en panique et incapable de la réveiller, indique le rapport de la coroner Stéphanie Gamache. La femme sans domicile fixe est toxicomane et avait consommé le matin de sa mort de la méthamphétamine, crystal meth, mélangée avec du fentanyl. Quelques mois plus tôt, après un séjour à l'hôpital, elle avait obtenu une ordonnance de naloxone pour qu'elle puisse prévenir les effets potentiellement mortels d'une surdose d'opioïdes, révèle le rapport. Peter H., 61 ans. Une voisine d'un petit parc du plateau Mont-Royal, fréquenté par Peter H., a remarqué qu'il était couché sur le sol près d'un banc dans l'après-midi du 8 septembre 2023. Sans domicile fixe, l'homme de 61 ans, diabétique, souffrait d'une bronchopneumonie, d'emphysème et de problèmes cardiaques. Ces problèmes de santé non soignés ont causé sa mort, conclut le coroner Steve Poisson, notant qu'on n'avait trouvé aucune trace d'alcool ou de drogue dans son sang. Yannick S., 18 ans. Yannick S. est mort d'une surdose dans les toilettes d'un restaurant de Sherbrooke le 28 novembre 2023. Son corps a été trouvé par une employée. À peine 10 jours plus tôt, il avait fait une autre surdose et avait été réanimé avec de la naloxone. Le rapport du coroner Steve Poisson précise que le jeune homme souffrait d'un trouble de déficit de l'attention et qu'il était suivi en psychiatrie. Peu avant sa mort, il avait manqué son rendez-vous avec son psychiatre et ne s'était pas présenté à la pharmacie où il recevait un traitement à la méthadone. José D., 48 ans. Un cycliste a trouvé le corps de José D. enfoui dans un sac de couchage le matin du 3 octobre 2019 dans le parc Marché Bon Secours dans le Vieux-Montréal. Des stupéfiants et une pipe à crack étaient près d'elle. La femme portait toujours un garrot à un bras après une injection de drogue. Le coroner Steve Poisson rapporte qu'elle souffrait d'une sepsis d'origine pharyngo-laryngite suppurée sévère qui a contribué à sa mort en plus d'une intoxication à la cocaïne et à la méthamphétamine. Il note qu'elle n'avait pas vu de médecin depuis 2015, selon les registres de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Vous écoutez 3 fois plus de décès de sans-abri au Québec, un dossier d'Isabelle Ducas et Pierre-André Normandin, paru le 17 octobre 2024 dans la presse. Bruno V., 36 ans. Le 3 juillet 2023, un proche de Bruno V. interpelle la police parce qu'il n'a pas de nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Sans domicile fixe, Bruno V. vit dans son motorisé. Après quelques heures de recherche, les policiers de Saint-Eustache trouvent son véhicule récréatif garé sur un terrain privé. À l'intérieur, gît le corps de l'homme de 36 ans, vraisemblablement mort depuis une semaine. La coroner Denise Langelier conclut qu'il a succombé à une intoxication médicamenteuse, puisque les analyses toxicologiques révèlent la présence dans son sang de plusieurs dépresseurs du système nerveux central, dont les effets s'additionnent, causant ainsi une détresse respiratoire, indique son rapport. Peter S., 65 ans. Peter Hess faisait partie de la centaine de personnes vivant dans des tentes sur le site du centre d'hébergement Jitami à Gatineau. Il a été retrouvé inconscient par une connaissance le 5 décembre 2023 en soirée. L'homme de 65 ans, qui avait un problème de consommation, est probablement mort d'une surdose de fentanyl et de méthamphétamine, selon le rapport du coroner Pierre Bourassa. Peter Hess souffrait d'hépatite et consommait plusieurs médicaments, dont le fentanyl, qu'il se procurait à la pharmacie. Pourquoi plus de sans-abri meurent-ils? Qu'est-ce qui explique que plus de sans-abri meurent? D'abord, le fait qu'ils sont de plus en plus nombreux, selon les intervenants qui leur viennent en aide. Mais il y a aussi plusieurs autres raisons. La drogue. En une seule journée, la semaine dernière, les intervenants de la mission Old Brewery ont porté assistance à 4 usagers en surdose dans le refuge, rapporte Mélanie Richer, directrice adjointe clinique de l'organisme. Heureusement, on a réussi à les ramener, confie-t-elle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Depuis la pandémie, la drogue est de moins bonne qualité, souligne Jaël Bégarin, directrice générale de la Maison du Père, qui gère des refuges d'urgence, mais aussi d'autres types d'hébergements. Les gens ne savent pas ce qu'ils consomment et mélangent différents types de drogues, ce qui fait qu'ils sont plus maganés qu'avant. Selon David Chapman, directeur général de Résilience, la majorité des sans-abri qu'ils connaissaient sont morts de surdose, surtout dû au fentanyl qui fait des ravages chez les toxicomanes. L'un d'eux a été retrouvé au début de l'été 2024 dans les toilettes d'un centre commercial plusieurs jours après sa mort, rapporte-t-il. La maladie et le manque d'accès aux soins. Vivre dans la rue n'est pas bon pour la santé, soulignent les intervenants. Les gens vieillissent prématurément à cause du rythme de vie qu'ils ont, note Mélanie Richer. Mais surtout, les sans-abri obtiennent rarement les soins nécessaires quand ils sont malades. Beaucoup ont des problèmes de santé non traités et ça s'est détérioré pendant la pandémie parce que c'était plus difficile d'avoir des services et beaucoup ne voulaient pas se faire isoler en allant à l'hôpital, poursuit Mme Richer. Résultat, quand ils finissent par demander des soins, leur état s'est détérioré et ils tentent, dans l'intervalle, de traiter la douleur avec de la drogue. Par exemple, ils peuvent avoir un cancer à un stade trop avancé, cite Jaël Bégarin. Et dans certains cas, ils ne pourront obtenir de traitement parce qu'ils n'ont pas d'environnement stable pour le recevoir. La Maison du Père a d'ailleurs ouvert, pour cette raison, un service d'oncologie. Beaucoup évitent l'hôpital parce qu'ils ne s'y sentent pas les bienvenus, observe David Chapman, surtout des femmes qui craignent la discrimination dans les services de santé, ajoute-t-il, racontant un épisode où une Inuite a subi les foudres d'une préposée à l'accueil parce qu'elle n'avait pas de carte d'assurance maladie. Les suicides. D'après les données du bureau du coroner, les suicides représentent le quart des décès de sans-abri sur lesquels il a enquêté. Il y a de graves problèmes de santé mentale et beaucoup plus d'idées suicidaires, rapporte Mélanie Richer, et c'est encore pire avec l'automne. Les services sont aussi difficiles à obtenir pour les sans-abri aux prises avec des problèmes de santé mentale, ajoute-t-elle. Les démantèlements de campements. Les intervenants en itinérance soulignent que lorsque les autorités démantèlent des campements de sans-abri, ces derniers ne font que déplacer leurs tentes dans des endroits plus isolés où personne ne viendra les déranger. Mais personne ne viendra non plus les aider en cas de problème. C'est ce qui est arrivé à un homme qui vivait dans le campement sous l'autoroute Ville-Marie près de l'avenue Atwater. Le ministère des Transports a démantelé ce campement en 2023. Il s'était trouvé un endroit caché, mais au printemps 2024, il a été retrouvé mort d'une surdose dans les toilettes d'un passage souterrain, se désole David Chapman. On avait prévenu que de telles choses arriveraient, et c'est arrivé. La violence. La vie dans la rue vient avec son lot de violence. Il y a de plus en plus d'itinérants qui se font tuer. Et ça nous fait peur, confie Jaël Bégarin. Il y a beaucoup de morts tragiques et violentes. En septembre 2024, le Journal de Montréal rapportait que plus d'une dizaine de sans-abri ont été tués dans la rue, au Québec, depuis 10 ans, et que ces morts violentes augmentent depuis 5 ans. C'était 3 fois plus de décès de sans-abri au Québec, un dossier d'Isabelle Ducas et Pierre-André Normandin, paru le 17 octobre 2024 dans la presse.
De l'évier à la rivière. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 4 octobre 2024 dans la presse. Que doit-on éviter de jeter à l'évier ou à la toilette pour protéger nos cours d'eau? Demande Marc, un lecteur. Lorsqu'on pense à de petits gestes à mettre en place au quotidien pour éviter de contaminer les rivières, plusieurs viennent à l'esprit comme opter pour du détergent liquide pour vaisselle plus écolo et remplacer l'eau de Javel par du vinaigre blanc comme produit nettoyant. Mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnementale à l'Université de Montréal. Tour d'horizon de quelques sources de pollution qui ont un impact sur les rivières et auxquelles on ne pense pas toujours, mais qu'on peut essayer de limiter à l'échelle individuelle. Les médicaments. En général, dans les stations d'épuration, on enlève les solides et on ajoute de l'oxygène pour réduire les matières organiques. Puis, on élimine une grande partie des bactéries en les exposant à un rayonnement ultraviolet et on ajoute des produits chimiques pour réduire le phosphore, énumère André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivière. Les médicaments ne sont donc pas éliminés. Ils finissent dans les cours d'eau et peuvent avoir des conséquences sur la faune et la flore aquatique. Dans une récente étude, Sébastien Sauvé a montré que le Saint-Laurent était pollué de façon chronique par des médicaments comme l'ibuprofène, Advil, ou encore le diclofénac, Voltaren. Mais en attendant que les stations d'épuration soient mieux équipées pour les traiter, que peut-on faire? Le message n'est pas d'arrêter de prendre des médicaments, bien sûr, mais d'essayer autant que possible de les rapporter à la pharmacie lorsqu'ils sont périmés, plutôt que de les jeter à la toilette, souligne le chercheur. Lisez, les médicaments dans le fleuve Saint-Laurent sont un problème chronique. La pollution plastique. Pour limiter la pollution plastique, il faut éviter de jeter des déchets dans l'environnement. Mégots, bouteilles, plastiques à usage unique, emballages. Mais également, nombreux sont les applicateurs de tampons qui sont jetés à la toilette et qui finissent dans les cours d'eau. Ceux-ci font partie du top 3 des déchets de plastique charriés par le Saint-Laurent qu'on retrouve sur la côte Est, selon un rapport réalisé par l'organisation Bleu. Bref, la toilette n'est pas une poubelle, martèle André Bélanger, qui rappelle que les lingettes ne doivent pas y être jetées au risque d'impacter les stations d'épuration. Les microplastiques. La majeure partie des microplastiques qu'on trouve dans les océans provient des fibres synthétiques issues du lavage des vêtements, révèle un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Au deuxième rang, on trouve les pneus de voiture qui rejettent une quantité colossale de microplastiques en s'usant. Pour limiter le relargage des microplastiques dans l'eau de lavage, on peut songer à mettre un filtre sur sa laveuse, mais celui-ci ne retiendra que les fibres de plus gros diamètre et laissera passer le reste. Il est donc préférable de limiter à la source, dit André Bélanger. Par exemple, on peut privilégier les vêtements de seconde main parce que c'est durant ces premiers lavages qu'un vêtement relâche le plus de microplastiques et opter pour des tissus faits de fibres naturelles plutôt que synthétiques. Les PFAS. Les polluants éternels, ou PFAS, sont un sujet de préoccupation croissant au Canada et dans le monde. Ils s'accumulent dans l'environnement et dans le corps. On en trouve jusque dans l'eau potable et dans le sang des individus et peuvent provoquer divers problèmes de santé. Les sources de contamination des cours d'eau par les PFAS sont multiples. Entre les rejets industriels, les mousses extinctrices, l'écoulement des eaux provenant des lieux d'enfouissement ou encore l'utilisation directe de produits qui en contiennent. Pour juguler cette contamination, on peut essayer de limiter sa propre exposition à ceux-ci en évitant d'utiliser des ustensiles de cuisine avec un revêtement antiadhésif, les vêtements de plein air avec une protection imperméabilisante, les emballages à usage unique utilisés en restauration rapide ou encore les cosmétiques et les produits d'hygiène personnelle contenant des PFAS. Limité à la source? Les rivières sont vulnérables à bien d'autres sources de pollution comme les pesticides, l'utilisation excessive d'engrais, les déversements d'hydrocarbures. Cette liste est loin d'être exhaustive. Dans l'ensemble, si on veut réduire efficacement la pression exercée sur les cours d'eau et les océans, les gestes des citoyens ne suffisent pas. Ils doivent nécessairement être accompagnés par des mesures et des restrictions adoptées par les pouvoirs publics, insistent les experts. On ne peut pas mettre tout le poids de la responsabilité sur le dos des individus, dit André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivière. Trouver une façon d'éliminer ces polluants au niveau des stations d'épuration, mieux gérer l'eau qui s'écoule des dépotoirs, mais aussi et surtout encadrer l'industrie pour qu'elle limite à la source la production et l'utilisation de ces substances dommageables pour l'environnement. Par exemple, le Canada interdit depuis 2016 de fabriquer, de vendre ou d'importer le PFOA et le PFOS. Et cela fonctionne. Selon les données de Santé Canada, les quantités de ces deux PFAS mesurées dans le sang des Canadiens ont fortement diminué depuis. On a vu aussi un gain énorme avec l'interdiction des sacs en plastique et des ustensiles en plastique à usage unique. Il faut continuer dans cette direction, souligne Sébastien Sauvé. C'était « De l'évier à la rivière », un texte de Chloé Bourquin paru le 4 octobre 2024 dans La Presse.